Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui, devant un nouveau-né, ne s'est pas secrètement dit qu'il y avait là à regarder plus qu'un simple petit homme, comme un mystère déplié devant nos yeux, quelque chose à contempler de la grâce, de la vie? Pour nous aider à entrer dans la profondeur des choses, il y a évidemment les poètes, les théologiens, mais aussi les philosophes. Ce matin, c'est l'un de ces penseurs que nous recevons pour une sorte de dissertation sur les âges de la vie, ces grandes étapes qui font l'existence, naissance, enfance, adolescence, âge adulte ou vieillesse. Un penseur qui va nous aider à comprendre ce que nous vivons, ce qui se joue pour nos enfants, une sorte de dissertation donc sur la manière qu'ont les hommes et les femmes de vivre et d'envisager le monde. Les âges de la vie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour invité Philippe Soile, qui est professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, et également professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Lourde charge pour vous que de déplier donc devant nous les mystères de l'existence. J'espère que ça ne vous a pas trop intimidé. Voilà, c'est un peu la grâce ou la chance de ces émissions Vivante Église, qui sont pas toujours en lien direct avec l'actualité, mais qui sont sur le temps long. Alors il faut se dire qu'on est parti d'une conférence que vous avez donnée en juin dernier à l'occasion d'un colloque sur la femme. Vous avez fait une intervention sur les âges de la vie au féminin. Avant qu'on rentre dans le sujet, j'avais peut-être allé une question en lien avec mon introduction. Est-ce que, comme philosophe, vous avez l'impression que votre métier, d'une certaine manière, c'est de donner à comprendre justement le mystère de la vie, ce que chacun vit au quotidien, et vous, vous en êtes là pour expliquer le pourquoi du comment ou l'envers du décor? Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez votre métier?
Oui, de manière, c'est assez proche de ce que vous venez de dire. En fait, je commencerai par l'étonnement. La philosophie commence par l'étonnement, comme le disent Platon et Aristote. Et le rôle du philosophe, qu'il n'est pas choisi, parce que nous ne choisissons pas de devenir philosophe, c'est d'abord quelque chose que nous sommes comme saisis par l'étonnement. Justement, la philosophie naît quand quelqu'un s'étonne. Et nous pouvons voir un enfant, un vieillard, un adulte, donc les différents âges de la vie que je viens de prendre dans le désordre, et simplement constater le fait qu'il y a des vieillards, il y a des enfants, etc. Ou bien, au contraire, nous étonner, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui advient? Est-ce que cela a une signification? Et donc, bien sûr qu'il est inévitable d'avoir été enfant, puis adolescent, etc. Mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et c'est cela, donc, à ce moment-là, qui nous fait entrer dans la recherche philosophique.
Alors on va y venir, on va, je le dis par souci d'accompagner les auditeurs, dans cette première partie on va faire un peu un travail d'accompagnement sur ce qu'on appelle donc les âges de la vie. Vous allez nous parler du temps, peut-être des deux grands rapports au monde qu'ont les hommes et les femmes, et puis du contexte sociologique et culturel. Après on parlera des grandes étapes pour les femmes, puis des grandes étapes pour les hommes dans la troisième partie. Vous vouliez commencer l'émission en insistant sur le temps. Dans cette conférence, vous dites entre autres la chose suivante: vivre, c'est durer, c'est se projeter à partir d'un commencement qui est inconscient, vers une fin inconnue. Et un peu plus tard dans votre propos, vous laissez entendre que dans le temps, il y aurait en fait, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, comme deux réalités, comme quelque chose qui court de manière sourde et souterraine, et au milieu comme des grandes étapes. Alors comment faut-il comprendre ce temps dans lequel l'on s'inscrit, Philippe Soile?
Oui. Alors, je commençais par une autre remarque, c'est le fait qu'il existe peu de livres sur les âges de la vie, en fait. Ce qui veut dire que vivre dans la longue durée, en ayant été enfant, adolescent, etc., cela arrive à tous ceux qui vivent assez vieux pour l'expérimenter, mais il y a peu de livres qui nous font réfléchir sur les âges de la vie et sur la signification de cette succession apparente d'âges de la vie. Voilà. Et donc ça, c'est une surprise, parce qu'en fait, comme nous sommes tous concernés et que nous vivons tous cette temporalité, comment se fait-il qu'il y ait si peu de philosophes, de théologiens, de psychologues, etc., qui aient réfléchi sur les âges de la vie? L'un aura écrit sur l'adolescence, l'autre écrira sur la vieillesse ou sur les enfants. François Zolto a beaucoup écrit sur les enfants, mais c'est autre chose que d'écrire sur les âges de la vie, parce que ce n'est pas s'intéresser seulement à une époque, mais c'est s'intéresser à cette succession d'époques. Voilà. Alors là, c'est la première remarque.
Il y en a un quand même, il faut peut-être citer l'ouvrage, puisque vous êtes en partie inspiré de lui. C'est donc Les âges de la vie de Romano Guardini.
Voilà.
Voilà, grand théologien, si vous voulez en dire peut-être un mot avant qu'on aille plus loin dans l'émission.
Oui, je crois que nous pouvons conseiller aux auditeurs de le lire. C'est Romano Guardini est un auteur qui est très profond, subtil, et qui écrit dans une langue très simple, très belle. ce sont deux grandes qualités, parce que souvent les livres profonds sont très difficiles, tandis que là, son petit livre, Les âges de la vie, en plus c'est un petit livre, c'est très profond, c'est subtil, c'est riche, et évidemment il ne peut pas tout dire en si peu de pages, mais il dit vraiment des choses essentielles.
Romano Guardini, donc l'un des plus grands théologiens catholiques du XXe siècle, oui. Avec Henri de Lubac, Urs von Balthasar, etc. Alors, sur le temps, Philippe Soile, y a-t-il deux réalités quelque part dans le temps? Le temps enfin, il y en aurait peut-être plusieurs, hein, le temps du quotidien, de l'immédiateté, ou le temps de ces grandes étapes, et puis un temps plus long ou plus profond. Qu'est-ce que vous diriez comme propos introductif sur cette temporalité?
Alors, la première remarque, c'est, je reviendrai sur un mot que j'ai employé, c'est le mot de succession. Si vous allez visiter les chantiers navals de Saint-Nazaire, vous voyez, au commencement, tout commence par un empilement de tôles de 5 mm d'épaisseur en acier, et puis ensuite ces tôles sont découpées, ajustées, cela donne la coque du navire, la structure, les cabines, et 100 mètres plus loin, vous voyez le bateau qui est terminé. Et donc là, vous avez une succession d'étapes, et donc à partir de la première jusqu'à la dernière. Apparemment, la vie humaine est aussi une succession d'étapes. Nous avons commencé par être un fœtus dans le sein de notre mère, puis après il y a eu la naissance, puis la jeunesse, etc. Et en fait, la grande découverte des philosophes, c'est saint Augustin qui l'a faite, c'est que le temps humain, le temps vécu, n'est pas une simple succession d'étapes. Il n'y a pas un âge, puis le suivant, mais il y a autre chose qu'Augustin a appelé la distension de l'âme. Et nous pourrions le comparer à un arc qu'il faut bander, qu'il faut tendre pour lancer la flèche. Ce qui veut dire donc que le temps ne consiste pas en une simple succession de phases ou d'étapes, mais dans le fait que l'âme, c'est l'âme elle-même qui est du temps. Pour le dire autrement, un poisson est dans l'eau, mais il n'est pas l'eau. Est-ce que l'homme est dans le temps sans être le temps? Non, l'homme est du temps. Ce que saint Augustin découvre, c'est que notre conscience, l'âme humaine, est du temps. Nous ne sommes pas dans le temps, nous sommes du temps. Et à ce moment-là, le temps ne consiste pas en une série, une suite d'époques, mais dans le fait de se projeter vers ce qui sera et de retenir ce qui a été. Et donc là, il faudra voir à chaque âge de la vie ce que cela veut dire, évidemment.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez redévelopper? Pourquoi est-il important de faire cette précision sur le temps comme propos introductif aux différents âges de la vie?
Parce que cela veut dire que à partir d'un certain âge, par exemple l'adolescence, un enfant a un passé. Quand l'enfant vient au monde, il n'a pas de passé, il n'a pas encore d'avenir. J'emploie ici le verbe avoir au sens le plus propre du terme. Parce que vous savez bien aussi que dans la conception habituelle des choses, ce qui est valorisé, c'est l'être au détriment de l'avoir. Mais le paradoxe ici, c'est qu'il faut valoriser l'avoir, non pas au détriment de l'être, mais par différence par rapport à l'être. Ce qui est important, c'est d'avoir. Ce que j'ai, je ne le suis pas. Si j'ai de l'argent, par exemple, je ne suis pas cet argent. L'avoir implique une distance, une différence, quelque chose que je peux mettre à distance de moi-même. Et donc, ça veut dire que c'est très important parce que l'enfant, nous le verrons tout à l'heure, par exemple, avec la fille ou le garçon, quand il arrive à l'adolescence, pour la première fois, a, au sens fort du verbe avoir, un passé. C'est-à-dire quelque chose qui est à distance de lui et qu'il met sciemment à distance de lui. Quelque chose donc avec quoi il peut jouer, dont il peut se différencier. Et justement pour pouvoir se projeter, un peu comme la flèche qui prend appui sur l'arc, pour pouvoir être projeté dans l'avenir.
Vous avez aussi cette expression, il en va comme en musique, où une mélodie est un tout indécomposable, un tout tel que son idée directrice est secrètement présente, résonne en chaque accord ou mouvement particulier. Dans ce propos introductif, vous vouliez aussi nous introduire à une grande différence qu'il y aurait entre les hommes et les femmes. Alors charge à vous de d'étayer ou de votre propos, Antoine, de nous prouver que cette différence. Et vous avez une image pour ça, c'est Ulysse, voilà, histoire bien connue. Tel Ulysse, l'homme serait d'abord projeté à l'extérieur dans sa vie. Il serait comme lancé dans une conquête, et cette conquête, ça serait une unité perdue. Et pour la femme, elle serait, comment dire, son défi pour elle, ça serait plutôt de sortir d'elle-même. Et sa grande aventure, ça serait cette unité, une forme d'unité sentie ou éprouvée intérieurement, qu'elle aurait à conserver. Est-ce que vous pouvez nous filer cette image d'Ulysse et de Pénélope et nous expliquer en quoi il y aurait deux grandes différences dans le rapport au monde qu'ont les hommes et les femmes?
Oui. Alors, cette image peut paraître paradoxale, surtout aux auditeurs, auditrices d'aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus du tout à l'époque d'Ulysse et de Pénélope, mais je crois qu'il reste quelque chose de profond dans cette image, et en dépit de tous les changements, je crois qu'elle touche juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-nous les faits. Donc d'abord, Ulysse part en guerre avec la coalition des Achéens contre les Troyens. Il part pour 10 ans de guerre et pour rentrer, il met 10 ans à rentrer. Donc le retour est une épreuve difficile. Pendant ce temps, pendant ces 20 ans d'absence, que fait Pénélope? Elle reste chez elle, elle file, elle tisse et elle fait tous les travaux ménagers, tous les travaux d'une femme, même si elle est reine. Et donc ça veut dire que le problème d'Ulysse, c'est le retour, c'est rentrer. Ulysse a les plus grandes difficultés à revenir chez lui. Le problème de Pénélope serait plutôt le problème inverse, c'est le problème de sortir. Mais dans cette civilisation-là, elle ne pense pas à sortir stricto sensu. Donc cela, à mon avis, est clair, en dépit, une fois de plus, des différences. La difficulté, c'est que le masculin est caractérisé sans doute par le fait que l'unité avec soi, avec le monde, avec autrui, est perdue et qu'il faut la reconquérir. Il faut donc revenir à soi, et pour être chez soi. La différence avec la femme, c'est que la femme, me semble-t-il, plutôt cherchera dans tout ce qu'elle vivra, tout ce qu'elle expérimentera, toutes ses actions, tout ce qu'elle subira, elle cherchera à conserver, à sauver son unité, son intimité avec soi. Et donc la difficulté de la femme sera l'inverse de celle de l'homme. Celle de l'homme, je l'ai dit, c'est la difficulté de rentrer, comment rentrer chez soi et être chez soi. La difficulté de la femme sera plutôt comment sortir, et sortir de chez soi, au sens même propre physique. Hein. Et ça aussi, c'est illustré par l'histoire des femmes, finalement, parce que pendant des millénaires, les femmes ont été dans la maison, pour des raisons évidentes qui ne tiennent pas uniquement à la méchanceté des hommes, évidemment. Les raisons évidentes sont la maternité, le fait que la femme était enceinte presque chaque année pendant des années, le fait que la femme devait allaiter les enfants. Et rappelons-nous aussi que pendant des millénaires, l'allaitement se fait jusqu'à un âge avancé. À l'époque des Grecs, une femme allait jusqu'à l'âge de 6 ans un enfant. Donc une femme qui allaite, qui est enceinte presque chaque année, il serait cruel de l'envoyer dehors à la guerre, de l'envoyer au champ, etc. Donc nous pouvons comprendre après coup pourquoi la femme a plutôt ou principalement été dans le foyer.
Et... Philippe Sol, avant qu'on aille plus loin, si vous permettez, vient une question, évidemment, en cette époque d'indifférenciation sexuelle, on se dit, d'où parle ce philosophe, pour utiliser une grande expression, est-il aisé de parler de la différence homme-femme comme cela, sans vergogne, j'allais dire. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Alors je dirais que le fait de la différence du masculin et du féminin est patent, il est évident, et nous pourrions le comparer avec le fait de la mort. Un psychanalyste que je lisais hier fait remarquer qu'il en va de même avec la mort. Le fait de la mort est évident. Arrivé à un certain point, un homme peut être déclaré mort cliniquement, par exemple. Mais après, la façon dont nous accueillons la mort et ce que nous faisons de la mort et du mort varie d'une époque à l'autre et d'une civilisation à l'autre. Dans certaines civilisations, le cadavre est laissé aux oiseaux. Dans d'autres civilisations, il y a l'incinération. Dans d'autres civilisations, il y a l'inhumation. Donc les rites funéraires varient, mais il y a un fait universel et permanent qui est le fait de la mort. Et donc après, le propre de l'humain, le génie de l'humain, c'est... consiste dans la façon d'agir, de se comporter face à ce fait universel de la mort. Le génie de l'homme consiste ici à faire de la mort une œuvre. Je peux y revenir après si vous voulez, mais il en va de même avec la sexualité. C'est-à-dire, le génie de l'homme consiste d'abord à constater le fait qu'il y a des garçons et des filles qui naissent sexuellement, génétiquement, il y a bien le masculin et le féminin. Il n'y a personne pour en douter sérieusement. Et après, le génie de l'homme consiste à faire quelque chose d'humain, quelque chose de social, de familial et même de personnel avec cette différence donnée par la nature. Et donc là, tous les auteurs depuis des siècles sont d'accord pour noter qu'il existe du masculin et du féminin. Quand je dis tous les auteurs, je pense aux médecins, aux biologistes, aux philosophes, aux théologiens, et je pense aussi à la psychanalyse plus récemment.
On s'était dit dans cette introduction qu'on allait aussi un petit peu parler du contexte sociologique et culturel. Alors il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, donc vous allez faire votre marché dans ce que je vais citer, ce qu'on avait échangé. La vie des femmes d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celle des femmes d'autrefois, et autrefois il n'y a pas besoin de remonter très longtemps. Je vous laisserai peut-être l'expliquer. La vie des femmes était plus brève, donc elle est pardon plus longue, elle est peut-être moins violente, il y a moins de morts en couche, ou en tout cas l'accompagnement sanitaire est est beaucoup plus important. Les femmes travaillent, ou en tout cas, ce sont des travails rémunérés. Pour les hommes, on avait noté un âge adulte qui vient plus tardivement, l'absence de rite initiatique. Bref, le contexte n'est plus aujourd'hui tout à fait le même pour les hommes et les femmes. Dans tout cela, qu'est-ce que vous retirez comme point qu'il est important de préciser en ce début d'émission?
Alors, je retiendrai, je peux commencer par les rites, parce que ça me paraît très important. Ce qui caractérise toutes les sociétés antérieures à la nôtre, toutes les civilisations, c'est la ritualisation. On le voit avec la bar mitzvah dans la tradition hébraïque, par exemple. Arrive à un certain âge, un garçon, objectivement, sort de l'enfance et entre dans l'âge adulte. Du point de vue hébraïque, cela veut dire que jusqu'alors, il n'a fait que recevoir, et que pour la première fois, il est capable de donner, puisqu'il arrive à l'âge de la maturité physique et qu'il est capable d'engendrer. Pareillement pour la fille un peu plus tôt. Et donc, dans la tradition hébraïque, cela veut dire que jusqu'à présent, le mal l'a emporté dans sa vie. Pourquoi? Non pas parce qu'il serait mauvais, évidemment, ce qui serait faux, mais parce que le bien consiste à donner. Et ce serait persister dans le mal que de ne faire que recevoir. Donc à ce moment-là, le bien entre dans sa vie à partir du moment où il est capable de transfigurer et de convertir la réception en don. Il a reçu la vie, maintenant il devient capable de donner. Donc le rite de la bar mitzvah indique cela. Et nous voyons avec d'autres noms dans d'autres civilisations. Donc nous étions en présence de civilisations extrêmement ritualisées. Il y avait des rites pour la naissance, le baptême, par exemple chez les chrétiens, le rite de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, le rite du travail, le rite du mariage, les rites funéraires. Et ce qui caractérise notre époque, c'est la lente disparition des rites, ou plutôt le fait qu'on laisse à chacun l'invention de nouveaux rites. Alors, ce qui est peut-être une chance pour certains, mais ce qui est peut-être aussi difficile pour beaucoup, parce que tout le monde n'est pas capable de s'inventer un mythe, des rites. Et donc, nous voyons aussi, nous assistons aussi parfois à des choses assez étranges dans l'invention ou l'essai des tentatives d'inventer de nouveaux rites.
Donc ça, c'est pour les rites, on va dire, ça concerne autant les hommes que les femmes.
Oui, tout à fait.
S'il y avait un point que vous vouliez souligner aussi dans le contexte, qu'il est important de souligner pour les hommes ou pour les femmes, quel serait-il?
Oui. L'autre point, c'est ce dont je parle dans le nouveau livre que j'ai écrit l'été dernier et qui paraîtra bientôt, je ne sais quand. L'homme incarné, voilà. Justement, c'est le rapport à la nature. Parce que il me semble que là, il y a de grands changements. Pendant des millénaires, c'est le rythme naturel du corps humain qui a déterminé les âges de la vie. Principalement. On le voit bien, donc l'enfant dans le sein de sa mère, puis la naissance, puis l'adolescence. Donc nous voyons bien comment les grandes étapes de la vie humaine sont caractérisées par la nature de notre corps, la maturation de notre corps à l'adolescence, évidemment la puberté par exemple, ou encore plus tard par la vieillesse. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les différents âges de la vie ne sont plus déterminés d'abord par la nature, mais par d'autres choses, notamment par des enjeux que nous pouvons dire d'éducation ou des enjeux sociaux.
C'est-à-dire?
Par exemple, le fait de l'allongement des études fait que un garçon ou une fille aujourd'hui sont physiquement matures et seraient aptes à engendrer. Donc une fille, rappelons-nous qu'une fille se mariait, ou était mariée plutôt, mais elle se mariait aussi puisqu'elle pouvait consentir dans certaines civilisations, à l'âge de 14-15 ans, quand aujourd'hui l'âge moyen du mariage pour un garçon et pour une fille est de 28 ou 30 ans. Donc cela veut dire que ce n'est plus la nature qui commande les rythmes et les âges de la vie. À 14-15 ans, une fille doit être mariée. À 20 ans ou 30 ans, cela dépend des situations, c'est un garçon qui doit l'être. Mais le mouvement et les changements se font en fonction de d'autres enjeux ou d'autres rythmes qui sont des rythmes sociaux, notamment les études. Donc l'allongement de la période des études fait que l'entrée dans la vie, dans le sérieux de la vie, enfin, si on peut appeler ça comme ça, se fait beaucoup plus tard. Et pareillement, le fait aussi de l'allongement, enfin le fait de la vieillesse ou de la nouvelle vieillesse, que j'ai pu appeler une jeune vieillesse, qui fait que les jeunes retraités, justement, se sentent une nouvelle jeunesse.
Comme le troisième âge, comme on dit.
Troisième âge, voilà, qui a sa valeur propre, sa densité propre. Et c'est quelque chose encore de tout à fait étonnant, parce que ça veut dire qu'arrivé à 60 ou 65 ans, un homme n'est pas un vieillard comme il l'était auparavant, mais ils sont encore une grande énergie, une grande. Alors si c'est dû à la médecine évidemment, hein, qui nous permet d'être en grande forme à cet âge-là, et une nouvelle étape de la vie peut s'annoncer avant la décrépitude de l'extrême vieillesse.
J'allais dire merci beaucoup, mais l'émission n'est pas du tout finie. On va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre, entre autres, d'un ouvrage qui vous a inspiré pour cette conférence que vous allez déployer dans cette émission, Les âges de la vie de Romano Guardini, paru aux éditions Foi Vivante. On fait une courte pause et puis on va essayer de voir donc les grandes étapes de ces âges de la vie pour les femmes dans cette deuxième partie, puis après pour les hommes dans cette troisième.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les âges de la vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Voilà, émission de philosophie, de théologie, je ne sais pas exactement comment il faut la présenter. Philippe Soile, en tout cas, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse et à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, est avec nous pour nous aider à rentrer dans cette dissertation. Comment faut-il la présenter? Philosophique, théologique, qu'est-ce que vous diriez, Philippe Soile?
Une recherche de la vérité, recherche du sens, en fait, c'est ça, hein, qui importe. Et donc, qui convoque aussi bien le théologien que le philosophe que toute personne qui peut dire quelque chose de profond sur la question.
Alors, on va rentrer donc dans les âges de la vie pour les femmes, avec ce découpage suivant, les débuts de la vie, que ça soit avant la naissance, les premiers âges, bref, quand on est une petite fille, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Donc, les débuts, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Pour les débuts, il y a un mot qui résume, selon vous, ce que vivent les petites filles, donc leur manière, on va dire, d'être, c'est sentir l'harmonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est d'abord cette phrase que vous retenez?
Oui, alors cela rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait que, voilà, ce qui m'apparaît, mais je ne suis pas le seul, je suis ni le premier à le dire, Edith Stein en avait parlé, l'avait souligné, le philosophe allemand Hegel aussi l'avait souligné dans ses écrits sur l'anthropologie. Ce qui caractérise le féminin semble être le désir, l'aspiration à l'intimité, l'aspiration à conserver son unité avec soi. Ce qui caractérise au contraire le masculin semble être d'essayer de reconstruire cette unité, de retrouver une unité perdue. Voilà. Donc là, nous pouvons garder cela comme fil conducteur pour aujourd'hui. Une fois plus, de nombreux auteurs en ont parlé. Je peux prendre comme exemple ce que dit Freud, par exemple, sur la sexualité. On le voit très bien dans l'histoire aussi. Quand, la façon dont, dont une femme le plus souvent vit sa sexualité est telle qu'elle aspire à unifier toutes les dimensions de sa vie. Et pas seulement à avoir une sexualité, mais à être aimée, à sentir l'unité avec la personne qu'elle aime. Là où un homme aura beaucoup plus de facilité à séparer, avoir une sexualité, par exemple, sans affection, sans amour, sans tendresse, etc. Donc on voit bien, jusque dans la sexualité humaine, une différence entre le masculin et le féminin. Et cela se voit, je crois, dès l'enfance.
Alors pour l'enfance, par exemple, quant aux objets, vous dites qu'il y a une manière en fait assez différenciée aussi d'avoir un rapport aux objets ou aux personnes. La fille a tendance à ramener les choses à elle. Elle les prendra contre son sein, elle en prendra soin. C'est quoi ? C'est une manière d'éprouver justement cette, je sais pas, la réalité. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
Oui, il me semble que c'est. Enfin, nous avons là à faire un geste caractéristique de la fillette et qui ne revient pas à une imitation de sa mère ou des femmes âgées qu'elle voit. C'est le geste qui consiste à prendre contre soi, à prendre contre son sein. Une image caractéristique qui me revient, c'est de voir une petite fille qui prend sa poupée, qui la caresse, qui la balance, comme elle voit faire sa mère, évidemment, avec le petit frère, la petite sœur qui sera née. Et donc là, nous avons bien un geste caractéristique. Prendre contre soi, prendre contre son sein. Le philosophe, évidemment, cherche à comprendre ce que cela veut dire, et il peut y voir l'effort laissé pour unifier avec soi et pour garder quelque chose qui est étrangère à soi, pour la garder ou la ramener à l'intimité avec soi, l'union avec soi, contre son sein, justement.
Alors ça serait la première étape. Pour l'adolescence est une période de crise. Vous allez nous expliquer peut-être la particularité de la crise pour une jeune fille. Le mot que vous retenez, c'est, ou l'expression peut-être qu'il faut retenir, c'est ce serait une unité à sauver.
Oui, alors l'adolescence, mais je remonterai un peu plus en arrière peut-être. Le premier grand événement de la vie, c'est la naissance en fait. Rappelons-nous d'abord l'enfant dans le sein de sa mère. Beaucoup de philosophes, des psychologues ont écrit sur la question. Le lieu natal de chaque personne humaine, c'est le sein de sa mère. Chacun d'entre nous est venu au monde en fait en venant d'abord dans le sein de sa mère. Et la première rupture, donc, c'est la naissance. Rappelons-nous que l'enfant vit sur le mode de la continuité. Et la naissance, et c'est le passage de la continuité à la discontinuité. Puisqu'à partir de la naissance, l'enfant doit respirer, donc ce qui veut dire une succession d'inspiration et d'expiration. La nourriture n'est plus prise en continu, comme c'était le cas pour le fœtus, mais la nourriture sera prise de temps en temps. L'enfant met un certain temps à régler sa prise de nourriture. Voilà. Donc il y a une première rupture dans la vie humaine, qui est le passage de la vie intra-utérine à la vie dans le monde, finalement. Alors ensuite, vous avez donc l'enfance, la petite enfance. Rappelons-nous aussi un point important, c'est le fait que le mot enfant vient du latin et il signifie celui qui ne parle pas. Donc ça veut dire aussi que nous avons là quelque chose d'étrange, c'est le fait que nous pouvons caractériser l'homme par le fait qu'il détient le logos, la parole, le pouvoir de parler, et l'étrange c'est que celui qui détiendra ou qui détient en puissance le pouvoir de parler vient au monde dans le silence. Et nous le voyons même dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, le Verbe qui devient chair, créature, il vient comme créature en étant un enfant. C'est-à-dire que le Verbe vient dans le silence, la parole vient en commençant par le silence et par le ne pas parler dans le monde. Alors cela nous ramène donc à la fille. Donc vous avez bien cette...
Et à l'adolescence donc.
Et à l'adolescence, oui. Alors l'adolescence, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la première apparition du Verbe avoir stricto sensu. Parce que là, il y a une coupure. Déjà, donc cela se joue dans le corps. Une fois de plus, il ne faut pas oublier le corps, et donc le corps naturel avec ses puissances. Et le passage à la puberté fait que le corps de la jeune fille se métamorphose et cela fait une rupture parce que la jeune fille ne reconnaît plus son corps change sous ses propres yeux, elle voit un corps qui devient féminin et qui devient semblable au corps de sa mère. Et donc là il y a bien ici nécessairement, même si c'est vécu de manière très différente d'une personne à l'autre, un arrachement à l'enfance. C'est son corps presque, on pourrait dire, qui lui joue un tour et qui fait qu'elle n'a plus le corps de la petite fille qu'elle a été jusqu'à présent. Donc à ce moment-là, il y a une séparation, une différenciation. Elle découvre qu'elle a été et que ce qu'elle a été, elle ne l'est plus.
Alors pourquoi ce mot « l'unité à sauver »
L'unité à sauver parce que...
À ce moment-là.
Oui, mais justement parce que alors, l'unité à sauver, paradoxalement, ici, elle semble perdue. Justement, puisque ce qu'elle a été, elle ne l'est plus, et ce qu'elle deviendra, elle le pressent, elle l'espère, et en même temps, ça l'angoisse. Il y a toujours cette double dimension chez l'être humain, d'attente de l'avenir, en même temps d'angoisse face à l'avenir. Je ne pense pas à la mort en disant l'angoisse, mais l'angoisse ou l'inquiétude relativement à qu'est-ce que je serai, que sera ma vie, que fera ce corps, que sera ce corps, dans toutes les dimensions de la vie. Donc il y a une part d'inquiétude aussi, donc d'espérance et de crainte, pour parler aussi comme cela. Voilà. Donc là, le désir de sauver son unité, c'est le désir justement de ne pas se perdre dans cette nouveauté, de ne pas perdre son unité avec soi. Et je reviens au geste dont je parlais tout à l'heure. Il me semble qu'il est fondamental pour la femme toute sa vie, c'est de ramener à soi toute chose, non pas pour la dévorer, non pas pour la supprimer dans son altérité, mais au contraire justement pour l'unifier avec soi. Et donc là, il me semble que l'effort de la jeune fille dans cet âge-là, c'est face aux changements radicaux qu'elle éprouve dans son corps, dans son âme, dans sa psyché, dans ses sentiments et ses émotions, c'est de se conserver elle-même et de sentir encore qu'elle est toujours la même.
Alors si on avance et qu'on rentre donc dans l'âge adulte, il y aurait beaucoup de choses à dire et vous en dites beaucoup, mais ce qui serait à retenir, c'est on va dire le consentement que l'on a autour de la possibilité de donner la vie. Alors derrière cette expression, on s'adresse à toutes les femmes, hein, celles qui donnent la vie, celles qui sont mère et maman, ou celles qui sont consacrées ou celles qui sont célibataires. Pour vous, quelque part un peu donc la fine pointe de l'âge adulte, de cette étape de l'âge adulte pour la femme, ça serait d'accepter de donner la vie.
Oui, c'est-à-dire d'abord...
Est-ce que vous auriez un exemple peut-être pour commencer? Souvenir d'une conversation ou de choses vues et entendues qui vous font dire que c'est là le maître mot pour l'âge adulte?
Oui, enfin, j'ai des conversations, souvenir des conversations avec mes sœurs, avec mes filles, mon épouse. Et oui, ça c'est une chose qui me paraît importante. Alors, une fois plus, vous l'avez bien souligné, cela ne veut pas dire que toute femme enfantera, aura des enfants, sera mère, etc. Par malheur, par libre décision, par hasard, des femmes n'auront pas d'enfants. Mais quelle que soit la situation, il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue et qui est très importante à cette époque-là, qui est découvrir son corps, le corps propre, et découvrir que ce corps propre a comme capacité étonnante le pouvoir de porter la vie, de porter l'enfant dans son sein, une fois de plus. Et là, il me semble que d'entrée de jeu, chez le petit garçon et chez la petite fille, cela est découvert assez tôt, en fait. Hein, je vois bien, je me rappelle quand j'étais petit garçon, j'avais des sœurs, trois sœurs, et je voyais très bien que je savais très bien, aussi petit que j'ai pu être, je me rappelle très très bien,
que vous ne donneriez pas la vie.
Moi, je pourrais donner la vie comme garçon, mais je ne pourrais pas la donner comme fille, en portant l'enfant dans le sein, dans mon sein. Y a une très belle parole du poète Novalis qui fait remarquer que la beauté et la profondeur de la jeune fille, justement, c'est ce mystère de la vie qu'elle pourra abriter dans son sein. Voilà. Et donc ça, le garçon peut le savoir très tôt, et la fille le sait aussi, je crois, très tôt, et même sans doute plus tôt que le garçon. Et donc ça veut dire, non pas nécessairement devenir mère, je ne condamne aucune femme à devenir mère, cela doit rester de l'ordre de la liberté, mais c'est autre chose dont il est question, c'est découvrir la possibilité en son corps propre et en son âme, dans toute sa personnalité, d'accueillir la vie en son sein, et c'est y consentir. Donc cela pourra ne pas avoir lieu, cela pourra avoir lieu, mais... il y a bien ce consentement à la vie et à la possibilité de donner la vie à son tour.
Vous avez aussi...
qui se joue chez le masculin et chez le féminin, mais pas de la même façon chez la fille.
Vous avez aussi cette expression, se sentir soi-même de la vie. Elle donne ce qu'elle n'a pas et ce qu'elle n'est pas, à savoir la vie dans sa plénitude, comme vie qu'elle laisse aller en elle. Je vois le temps qui passe, donc passons à la dernière étape, qu'on a appelée la vieillesse. Alors pardon pour ceux qui n'apprécient pas ce mot, derrière de fait la vieillesse, aujourd'hui en plus il y a différents âges, on le disait tout à l'heure, le troisième, le quatrième, ça c'est les manières très contemporaines de serrer un peu les choses. Pour vous, pour les femmes, le cœur de... voilà, la manière qu'on pourrait avoir de résumer cette étape, c'est d'assurer le salut de la vie. Alors je rappelle pour les petites filles, ce serait de sentir l'harmonie. Pour les adolescentes, ça serait une forme d'unité à sauver. Pour l'âge adulte, accepter de donner la vie. Et donc pour la vieillesse, d'assurer le salut de la vie. Qu'est-ce que vous entendez derrière cette expression?
Alors Emmanuel, si vous permettez, je reviens en arrière un instant pour parler du métier des femmes. Parce que là aussi, c'est une chose qui a changé. C'est que les femmes aujourd'hui, celles qui sont mères, son maire et en même temps assume un métier. Donc leurs tâches sont multipliées, beaucoup plus difficiles, et la difficulté justement, c'est de tenir ensemble ce qui semble éclater. Elles font les courses, elles font la cuisine, elles font le ménage, elles s'occupent des enfants et elles ont leur métier en plus. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant et qui va apparemment à l'encontre de ce que j'ai dit, mais justement, il me semble que ça mène de l'eau à mon moulin. C'est que la femme d'aujourd'hui, dans toutes ses activités, justement, refuse l'éclatement. Elle refuse que sa vie soit cloisonnée. Il y a, je fais les courses.
C'est d'ailleurs souvent une souffrance pour elle.
C'est précisément une souffrance
pour elle. La fameuse charge mentale qu'on se traîne, quelle que soit l'activité.
Exactement. Et je pense que ce ne serait pas la même souffrance pour un homme. Je pense que, une fois plus, parce que l'homme a plus facilement tendance à l'éclatement de ses activités, au découpage de ses activités en tronçons, en segments, etc. Et la femme le vit comme une souffrance. Et donc, je crois que finalement, ça apporte de l'eau à mon moulin.
Donc voilà. Elle est gardienne de cette unité intérieure, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, elle souffrira si elle voit un éclatement, si elle a l'impression que sa vie est cloisonnée et qu'il y a des segments différents et qu'elle ne peut pas unifier tout cela et qu'elle n'est pas elle-même parce qu'elle se sent éclatée dans des rôles différents qu'elle n'unifie pas, dont elle ne sent pas l'unité, la signification ou la finalité. Voilà.
Alors, la vieillesse, assurer le salut de la vie. Pourquoi est-ce que vous utilisez cette expression pour la, on va dire, la dernière étape de la vie des femmes?
Alors, c'est toujours difficile de parler des femmes en étant un homme. Je ne prétends pas usurper leur place. Je prétends simplement parler en tant qu'homme, non pas au nom des femmes, je ne suis pas habilité pour cela, mais parler en tant qu'homme et essayer de... Parce que nous avons aussi d'abord une commune humanité, et ensuite nous pouvons, avec toute l'empathie, la sympathie et l'amour, essayer de comprendre qui elles sont et quelle différence il se joue entre elles et nous. Alors, il me semble que, là encore, nous retrouvons... une fois de plus, sans vouloir enfermer la femme dans un rôle, ce n'est pas du tout mon souci ni mon désir, mais il me semble que nous pouvons montrer que la femme est plus essentiellement, peut-être que le masculin, tourné vers la vie, vers le vivant. Je pourrais en parler après avec le garçon. Cela se voit dès l'enfance. Un garçon joue avec des jeux qui lui permettent d'avoir prise sur le monde. J'y reviendrai. Là où la femme joue avec des poupées, et en fait, elle ne joue pas avec une poupée, sa poupée est son enfant. Donc la femme a affaire à la vie, essentiellement. Et le garçon à la construction, au monde, etc. Et il me semble que cela se retrouve encore dans la vieillesse. Ce n'est pas par hasard encore si même la transmission de la foi, par exemple, se fait plus par les grands-mères que par les grands-pères. Une fois plus, il y a des exceptions, évidemment, il y a toutes sortes de possibilités, empiriquement. Mais il y a bien ce souci constant de la vie. Un homme aura davantage aussi de son nom. D'une tradition. La femme aura le souci que la vie se soit perdurée, que la vie ait été transmise. Donc le souci de ses enfants, de ses petits-enfants, elle les sentira, le vivra comme la chair de sa chair, véritablement. Et donc elle sera toute soucieuse et joyeuse quand tout va bien, quand les choses sont belles, de cet accomplissement de la vie, au-delà d'elle-même.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Je rappelle le titre d'un ouvrage qui vous a entre autres inspiré, de Romano Guardini, donc grand théologien catholique, « Les âges de la vie » paru aux éditions Foi Vivante. Et on vous retrouve pour parler des hommes. Thank you.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les âges de la vie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission donc avec Philippe Soile, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat et également professeur de philosophie à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. On a donc, après ce propos introductif sur les âges de la vie, parlé des femmes dans la deuxième partie, et maintenant on va parler des hommes. Si on essaye de reprendre les grandes étapes qu'on a évoquées pour les femmes, donc les débuts de la vie, l'adolescence, l'âge adulte ou la vieillesse, vous en avez déjà un petit peu parlé, pour les débuts de la vie, il y aurait donc d'abord une manière d'entrer dans ce qui se joue à cet âge-là, ça serait tout simplement de s'arrêter sur la manière qu'ont les garçons et les filles de manier les objets ou de se comporter avec les autres. Pour le garçon, voilà, je retrouve plus le passage. Pour vous, tout de suite, il est souvent facile de voir qu'il y a dans le rapport aux objets une manière d'éprouver sa force pour les plus jeunes garçons. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors d'abord je soulignerai le fait, enfin deux points. Le premier, c'est le fait que la différence entre le masculin et le féminin est plus souvent une différence d'accent qu'autre chose. Je peux prononcer le même mot avec l'accent marseillais ou avec l'accent alsacien, c'est toujours le même mot, mais l'accent tonique n'est pas sur la même syllabe. Et donc souvent, la différence entre le masculin et le féminin est une différence d'accent. Le deuxième point, évidemment, c'est le fait que il est difficile une fois de plus de dire en quoi réside toujours cette différence, et il y a souvent simplement du culturel, mais il y a bien aussi un fond naturel dont nous avons parlé au commencement. Alors le deuxième point dont je voulais parler aussi, c'est le fait que justement il y a un fond commun, il y a une commune nature humaine chez le masculin comme chez le féminin. Et pour aller plus vers ce que vous me demandez, je ferai remarquer ce qui se passe dans le corps de l'enfant. L'enfant qui naît n'a pas de dents. Et les dents apparaissent au bout d'un certain temps, dans la première année, et à partir du moment où l'enfant a des dents, il peut mordre. Et mordre, le mot a beaucoup de significations. Ils peuvent vouloir dire mordre, ça peut être mordre le petit frère ou la petite sœur, ou à l'école, être mordu et mordre quelqu'un d'autre. C'est mordre dans la vie, mordre des fruits, manger. Mais le fait que les dents lui viennent signifie qu'il pourra justement déjà par les dents saisir et broyer. Aussi, l'autre point important, c'est la main. L'enfant a des mains, par la main il pourra saisir, il pourra caresser, toucher, et là il me semble qu'il y a une différenciation qui se fait entre le garçon et la fille, qui tient au fait que le garçon cherchera plutôt à mettre l'objet à distance de soi et à le manipuler, à le construire. Je prendrai l'exemple caractéristique du garçon qui a des Legos, qui a des Kaplas, des Duplos, etc., et qui bâtit une tour, une cathédrale, un château, que sais-je. Donc il met la chose à distance de soi et il bâtit, il construit. Là où la fille, au contraire, par sa main, cherchera, nous l'avons vu tout à l'heure, à ramener la chose avec soi. Alors évidemment que la petite fille peut rejeter sa poupée, peut mettre à distance de soi. Je ne prétends pas du tout que le garçon n'est pas capable de rapporter à soi et que la fille n'est pas capable de mettre à distance de soi. C'est pour avoir une sorte de ligne directrice quand même.
Quand vous dites éprouver sa force, est-ce que du coup vous pouvez préciser un petit peu plus? Vous avez cette expression aussi. Il s'amuse avec ses jouets, d'abord de manière maladroite, il ne les maîtrise pas et ensuite il aura plaisir à les casser comme pour sentir sa force sur les choses.
Oui, c'est Hegel qui fait remarquer que le petit garçon, dans un premier temps, ne sait que casser. Et ce qui veut dire aussi que la venue à la maturité, et cela prend très longtemps chez certains, et chez tout homme sans doute, c'est apprendre à ne plus casser, mais apprendre à respecter, apprendre à laisser croître, à laisser exister, finalement. Donc ce qui est caractéristique chez l'enfant, on le voit chez tous, c'est le plaisir de casser. Je veux dire par là que c'est pas seulement de la maladresse. Il voulait faire une tour et la tour s'est effondrée. C'est un plaisir. Il a bâti, et il a plaisir de détruire ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit. Voilà. Donc c'est par là que le garçon mesure sa force. Parce que comment mesurer sa force? Eh bien, en l'exerçant et en voyant la résistance. Est-ce que la chose me résiste? Est-ce que je la maîtrise? Est-ce que je tiens bien l'outil? Voilà. Et par là, petit à petit, ce qui est capital aussi du point de vue anthropologique, c'est ce que nous pouvons appeler la différence entre moi et le monde, entre moi et la chose.
Alors on y vient, si vous permettez, parce que je vois le temps qui passe. Je voudrais pas qu'on zappe l'une ou l'autre étape. Si on rentre dans la deuxième étape, donc pour les garçons, l'adolescence, évidemment c'est un moment de crise. Alors là, pour vous, le mot-clé, c'est l'opposition au monde.
Oui. Alors, je reviens encore un instant en arrière.
Pas trop, hein, parce que...
Non, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, oui.
Je voudrais juste qu'on aille jusqu'au bout.
Ça va dans le sens de ce que vous me demandez. L'autre point important, c'est que l'enfant, au début, est couché. Et lentement, il apprend à marcher. Donc, et en même temps, viennent en même temps la marche et la parole. Et par la marche, l'enfant a prise sur l'espace. Il enjambe l'espace. Il est capable de se déplacer. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. C'est-à-dire qu'il est capable de liberté dans l'espace. Et donc, à ce moment-là, il pourra marcher pour lui-même et par lui-même. Alors, j'en viens justement à l'adolescence. Alors, il y a bien aussi quelque chose de commun avec la jeune fille ou avec la fille, l'adolescente. C'est le fait que cela est biologique d'abord. C'est pas un acte de la volonté. C'est pas non plus un simple fait social, une coutume sociale. Il y a quelque chose qui se joue dans le corps et qui fait que c'est l'âge de la puberté. Donc, c'est l'âge à partir duquel une sexualité nouvelle apparaît ou la sexualité apparaît en tant que telle. Évidemment. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive au garçon? Qu'est-ce qui le différencie de la fille? Davantage, sans doute, l'opposition au monde et aux parents. Alors cette opposition, nous l'avons vu, ou en tout cas la différenciation, la mise à distance, elle est propre aux deux. Donc on la trouve chez les garçons et chez la fille. Mais ce qui caractérise sans doute le garçon à cet âge, c'est le désir d'être soi-même et en s'opposant. Donc nous voyons là un âge caractéristique chez le garçon, une fois de plus cela peut se retrouver aussi chez la fille, et une sorte d'oscillation. Parce que c'est l'âge où, d'un côté, un garçon peut rêver d'être comme Robinson Crusoe. Et Robinson Crusoe est un homme, un garçon. Donc le rêve d'être tout seul, et d'être seul au monde sur une île déserte. Et de l'autre côté, le rêve de changer le monde, de transformer le monde. Et c'est donc l'âge par excellence de l'idéal. Et alors en quoi est-ce qu'il y a une opposition au monde et aux parents? Dans le sentiment que le monde n'est pas comme il devrait être, au regard de l'imagination de l'enfant, de l'adolescent, au regard de ses rêves, de ses idéaux, qui sont absolument à prendre au sérieux, que lui-même prendra au sérieux plus ou moins. Et donc à ce moment-là, nous expliquons cette double tendance, cette oscillation, par le fait que tantôt il veut se retrouver seul avec soi sur une île déserte, tantôt il veut se donne le plan d'une profonde transformation du monde, mais dans tous les cas, donc, il n'entre pas dans le monde tel qu'il va, tel qu'il est.
Il nous reste 7 minutes pour faire les deux dernières étapes. Je vous le dis parce que je dois faire le timekeeper pour cette émission. L'âge adulte, ce serait donc l'âge, selon vous, de la réconciliation avec le monde et avec soi.
Oui, c'est une formule un peu hegelienne de nouveau. Je suis lecteur de Hegel, comme vous le savez. L'âge de la réconciliation, oui, pourquoi? Parce que donc nous avons vu cet enfant qui est né, qui est sorti du sein de sa mère, qui a respirer, qui marche, qui parle, qui a prise sur les choses, qui découvre son corps et qui est passé par l'adolescence. Cette adolescence qui est l'âge du être contre, dans le sentiment, là, ou la croyance que le monde ne va pas comme il devrait aller. Donc les idéaux peuvent varier d'une époque à l'autre et même d'une famille à l'autre ou d'un vieux à l'autre, mais c'est par excellence l'âge de l'idéal, l'âge où on a le sentiment qu'on a quelque chose à apporter. Et le sentiment, donc pour chacun, plus ou moins développé selon chacun évidemment, que ça peut aller jusqu'au sentiment que le monde n'attend que moi. Jusqu'à présent, rien ne s'est bien passé. Heureusement que je suis là, je suis venu au monde pour sauver le monde. Ça peut aller jusqu'à cela. Et donc, si j'y reviens, c'est l'âge où l'adolescent ou le jeune homme un peu après voudra agir contre. Et il faut des années encore de maturité, de même qu'il fallait des années de maturité pour apprendre à ne plus casser, mais à bâtir ou à construire et à sauver ce qui a été bâti. Il faudra des années à l'adolescent pour devenir un homme mûr et entrer dans ce que j'ai appelé, ou ce que Hegel appelait, la réconciliation avec le monde. C'est-à-dire non plus agir contre, mais agir pour. En découvrant qu'il y a des bonnes choses, que bien sûr le monde n'est pas parfait, n'est pas achevé, tout n'est pas beau. Il y a 1000 injustices, faillites, insuffisances, mais dans sa profondeur, le monde est bon. Voilà, c'est la découverte de la bonté des choses telles qu'elles sont.
Et dernière étape,
une certaine bonté des choses.
Et dernière étape, donc assurer le salut de son œuvre ou du monde. Alors on va peut-être redire, parce que l'expression peut paraître un peu grandiloquente. En tout cas, je vais essayer de résumer ce que j'avais compris pour les femmes. Vous disiez que les femmes, si elles ont, on va dire, au cœur, comme de manière, enfin voilà, de manière structurelle, de sauver cette unité intérieure, en tout cas, de travailler à cette forme d'unité, d'accepter de donner la vie, de laisser en fait la vie comme les traverser, et bien sur dans leur vieillesse, on va dire, ce triomphe de la vie quelque part, c'est ce qu'elles porteraient dans leur cœur et dans leur prière quand elles sont chrétienne et qu'elle prie. Pour les hommes, il en est un petit peu différemment. Expliquez-nous.
Alors, il me semble que ce qui caractérise l'homme, c'est le souci, non pas de la vie, bien sûr qu'il y a le souci de la vie, hein, mais c'est une fois de plus une question d'accent, mais le souci de son œuvre et le souci de son nom. N-O-M, hein, évidemment. Donc cela peut-être s'efface aujourd'hui parce que le nom est moins important qu'il ne l'a été, mais je crois que cela ne demeure quand même. Et ce n'est pas par hasard que pendant des générations, c'est le père qui donnait son nom à son épouse dans le mariage et qui donnait son nom à ses enfants. C'est aussi, ça tient au fait que c'est au nom du père, et c'est le nom du père, parce que c'est le père qui a le souci du nom et de la perpétuation d'un certain nom.
Et c'est-à-dire que derrière le souci du nom, c'est de se demander en fait ce qu'on aura laissé, c'est ça ou...
Absolument, oui, oui, oui. Donc c'est le souci de l'œuvre. L'œuvre que j'ai accomplie. Est-ce que, parce que l'homme aussi a contribué à donner la vie avec son épouse, évidemment, ou avec sa compagne, mais il n'a pas, enfin, l'accent n'est pas sur la continuation de la vie, l'accent est sur la continuation de l'œuvre. Et donc, le masculin est caractérisé, me semble-t-il, dans cet âge-là davantage, par le souci du monde, le souci de l'œuvre. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs que nous voyons tant d'hommes âgés ou très âgés encore être maires, députés, et jouer un rôle politique. C'est quelque chose qui accompagne le garçon, bâtir, construire, établir, faire durer quelque chose hors de soi tout au long de sa vie.
Philippe Soal, une dernière question. Redites-nous, comme vous nous l'avez dit au début de l'émission, quel intérêt y a-t-il à essayer de déplier justement ce que l'on voit et qu'on ne réfléchit pas forcément et particulièrement sur ces âges de la vie ? En quoi cela peut-il nous aider à vivre ?
Alors nous aider à vivre déjà, peut-être nous émerveiller et accepter de ne pas comprendre. Ce qui est paradoxal, mais les philosophes aiment bien les paradoxes. Il vaut mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Donc, nous émerveiller, nous étonner, parce que la routine nous enlève les yeux pour voir. Et là, simplement, ce à quoi la philosophie nous convie, c'est à nous étonner, et de nous étonner qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. La nuit est quelque chose d'étonnant, mais j'ai pas le temps d'en parler ici, je suis pas là pour ça. Et donc, nous étonner ici qu'il y ait des âges de la vie, nous étonner de cette temporalité humaine si compliquée, finalement, parce que nous ne sommes pas une plante qui se contente de passer d'un stade à un autre. Quand nous sommes dans le troisième, le quatrième stade de la vie, nous ne pouvons pas ne pas nous rappeler le premier et le deuxième, ce qui fait que l'enfance n'est pas quelque chose simplement qui est passé et qui est lointaine, mais quelque chose qui ne cesse d'être présente. Ce qui fait que notre enfance, toute notre vie, nous avons affaire à notre enfance. Et inversement, la vieillesse n'est pas seulement quelque chose qui sera un beau jour, mais qui pour l'instant ne veut rien dire, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est déjà là. Nul ne sait s'il sera vieux, mais chacun, dès qu'il est petit, petit garçon, petite fille, sait qu'il pourra être un vieillard ou une vieille femme. Et donc par là, le passé le plus lointain est toujours présent et vivant, et l'avenir le plus lointain est déjà présent et vivant. C'est cette distension de l'âme dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que l'homme ne se contente pas d'être une chose dans le temps, mais que l'homme vit le temps et qu'il est le temps, qu'il se projette dans l'avenir, qu'il assume le passé, et qu'il lui faut tenir ensemble toutes ces dimensions du temps, ce qui est une tâche difficile.
De là à dire qu'il y a un peu d'éternité dans le temps, il n'y aurait peut-être qu'un pas. Je rappelle une dernière fois le livre qui vous a inspiré, Les âges de la vie de Romano Guardini, paru aux éditions Foi Vivante. Merci beaucoup Philippe Soal d'être venu
Merci
ce matin
Emmanuel,
avec micro de Vivante Église, et on se réjouit d'avoir encore la liberté de parole, de parler de ces sujets à cette antenne. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.